Est-ce que votre nom est inscrit dans un livre appelé Qui est qui? Est-ce que vous êtes sur la liste des personnes importantes? Vous savez, il y a un livre qui a été publié en 1849 en Angleterre par une compagnie qui s'appelle ANC Black et ça continue d'être publié aujourd'hui. Dans ce livre particulier, les noms des gens importants de l'histoire, des membres du Parlement, des juges, des politiciens, différents hommes importants dans la vie britannique sont publiés. Et à partir de là, plusieurs personnes ont créé leur propre qui est qui, d'autres livres. Par exemple, le qui est qui des éleveurs de chiens, des montagnards, des joueurs de ping-pong ou de toute autre activité, si vous voulez. Mais le Who's Who, le qui est qui original, est un livre très important dans la société britannique. Et ça depuis plusieurs années, donc. Les gens aimaient avoir leur nom publié. Et ça a été même écrit dans le Wall Street Journal. Être inscrit dans ce livre ajoute une dimension particulière à la vie britannique moderne. Le Daily Mail, un autre journal londonien, écrit ceci concernant ce livre qui est qui? Le plus fameux livre de référence britannique. Alors, je pose la question encore une fois. Est-ce que votre nom est inscrit dans un tel livre, dans un livre qui est qui? J'ai déjà posé la question à un groupe de l'Église. Il y avait environ 50 personnes présentes et une personne a levé la main. C'était un scientifique et son nom était inscrit dans un livre concernant les hommes de science. En ce qui me concerne, mon nom n'est pas dans aucun livre de la sorte. Je ne suis pas une personne importante. Mais j'aimerais parler avec vous d'un sujet très important aujourd'hui. C'est que votre nom et mon nom sont effectivement inscrits dans un tel livre. Qui est qui? Prenons notre Bible, s'il vous plaît, et allons à Philippiens, chapitre 4, et le verset 3. Vous allez voir, il est question ici d'un livre qu'on pourrait intituler « Qui est qui? », un livre très important qui vous concerne, qui concerne la famille de Dieu. Alors, Philippiens 4, et le verset 3, Paul écrit « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Voilà l'ultime livre « Qui est qui? » Et on ne trouve aucune copie de ce livre sur la terre parce que c'est aux cieux. Et ce sont Dieu le Père et le Christ qui décident quelle personne verra son nom inscrit dans ce livre. Allons à Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. On parle de cette église ici. On mentionne que certaines personnes de cette église-là ont leur nom écrit dans le livre de vie. Verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors, ça va avec le verset qu'on vient de voir dans Philippiens. Notre nom est écrit dans le livre de vie, ceux qui sont appelés et baptisés. Mais on voit ici que c'est possible aussi que notre nom soit éliminé, effacé de ce livre. Alors, c'est un livre très important. Si vous êtes vraiment baptisé, si vous êtes vraiment converti, et si vous persévérez dans la foi et dans le service de Dieu, de faire la volonté de Dieu, vous pouvez être assuré que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Comment savoir qui est écrit là? Comme j'ai mentionné, on ne peut pas trouver ça dans aucun livre sur la terre comme tel. Mais moi, j'ai une sorte de perception mentale. Je me fais une image de comment ça peut se passer dans le ciel. Vous savez, parfois, on pense à certaines choses puis on se fait une imagerie autour de ça. C'est pas mauvais. Dans mon cas, je m'imagine que quand quelqu'un est baptisé, quand le ministre lui impose les mains et qu'il reçoit l'Esprit Saint dans les cieux, dans une pièce très belle, très spéciale, avec des draperie superbe, où il y a un bureau très large, magnifique, un bureau pour écrire, peut-être un peu comme les bureaux d'autrefois qui étaient sculptés. Et là, vous avez sur ce bureau-là un immense livre. Sur un côté, vous avez des noms d'écrits et sur l'autre côté, vous avez une page blanche. Et voici, à côté, il y a un encrier avec une longue plume de cygne qui se tient dans l'encrier. Et un ange vient. Je ne sais pas comment il est habillé, je n'ai pas imaginé, mais il ouvre le livre, il prend la plume de cygne et il écrit dans des lettres parfaites, lentement, votre nom ou le nom de la personne qui est baptisée, qui vient d'être baptisée. Et c'est magnifique. Et lorsque c'est terminé, il prend un buvard et il assèche l'encre sur la page pour que tout soit parfait. Et voici que quelqu'un mentionne le nom d'une autre personne qui vient d'être baptisée. Alors l'ange reprend la plume de cygne et écrit lentement le nom de cette nouvelle personne qui est placée dans la famille de Dieu, qui vient de recevoir son Saint-Esprit. Mais par contre, ça peut être différent. On peut imaginer un autre scénario. Ça peut être un ange qui vient habillé de façon particulière et il s'assied devant un ordinateur, devant l'écran, et il entre manuellement le nom de la personne nouvelle baptisée. Quelle scène répondrait le mieux? Je pense à mon choix, à moi, c'est la première scène, mais bien sûr, c'est simplement mon imagination. Mais quoi qu'il en soit, le fait est, c'est que notre nom est dans le livre de vie. Si nous restons fidèles, si nous obéissons à la loi de Dieu, si nous faisons sa volonté, nos noms seront préservés pour le jour où Jésus-Christ reviendra et ressuscitera ses frères et ses sœurs à la vie éternelle. Alors, il nous faut comprendre ça à la fête des tabernacles. Ça nous encourage. C'est important pour nous de penser à notre appel, à la valeur de notre appel. Vous savez, le Christ a agi dans nos vies. Dieu nous a appelés, nous avons répondu et nous voici à la fête, obéissant à Dieu, observant cette fête qu'il a commandée. Et nous avons quitté nos foyers pour aller là où Dieu a mis son nom, dans les différents pays à travers le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, que ce soit au Mexique, que ce soit dans les Caraïbes. Les gens se sont rendus au lieu de fête des tabernacles pour écouter les sermons des serviteurs de Dieu, leur expliquant le merveilleux monde à venir. Écoutez, nous avons déjà été inspirés par les messages que nous avons entendus jusqu'à maintenant et ça nous aide à voir la vision, la vue d'ensemble de ce qui s'en vient dans le monde à venir. Et nous apprenons à vivre une voie de vie qui plaît à Dieu. Nous nous préparons à être utiles entre les mains de Dieu, alors qu'il nous sera donné l'occasion d'avoir des corps spirituels, une intelligence parfaite pour servir dans le monde à venir, ne jamais se tromper, jamais dire un mot offensif, jamais être fatigué, toujours marcher dans la perfection comme le Christ et le Père sont actuellement. Alors, nous attendons le temps du royaume avec un grand plaisir. Nous attendons le règne du Christ. Et c'est très important le sujet dont je vous parle aujourd'hui, le livre de vie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit les noms et les fonctions des gens qui sont déjà décédés dans la foi et qui seront dans leur royaume. Nous parlerons également en ce qui concerne ceux qui sont appelés maintenant. Et nous pouvons voir que pour un certain nombre de personnes, il y a déjà des fonctions spécifiques qui sont préparées et qui sont en attente pour ces gens-là qui sont morts. Et Dieu fait la même chose pour vous et pour moi qui sommes appelés maintenant. Allons à Apocalypse chapitre 19, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19. Nous allons voir qu'il y a des noms de certaines personnes dans l'histoire des serviteurs de Dieu qui sont inscrits en permanence dans ce livre maintenant. Ils sont en attente de recevoir leur héritage. Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Voici ce qu'il est dit. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Allons au verset 16 maintenant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». De qui s'agit-il? Vous le savez, c'est Jésus-Christ. Et je suis assuré que son nom est le premier à être inscrit dans le livre de vie. Il est le premier à être ressuscité. Ésaïe chapitre 9 maintenant. Ésaïe chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 5. Ésaïe chapitre 9. À partir du verset 5, donc, il est question du Christ encore ici. C'est une prophétie concernant sa venue sur la terre. Le premier qui sera sur cette liste et qui est sur cette liste, c'est le Christ, bien sûr. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination ou le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, c'est-à-dire celui qui donne la vie, prince de la paix. Voici les titres, certains des nombreux titres qui appartiennent au Christ. Verset 6, « Donner à l'empire de l'encroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Merveilleux. Alors, nous voyons ici que Jésus-Christ arrive en tête de cette liste du livre de vie. Allons maintenant à Matthieu, chapitre 23, s'il vous plaît. Matthieu. Chapitre 23, et nous allons voir que sous le Christ, il y aura des leaders importants qui vont jouer un rôle important. Alors, Matthieu, le chapitre 23 et le verset 34, voyez ce qui est mentionné ici, voyez ce qui est écrit, verset 34. « C'est pourquoi, voici, c'est Christ qui parle, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Alors nous voyons ici, dans Matthieu 23, dans ces deux versets que nous avons lus, qu'il y a une liste d'hommes justes, d'Abel jusqu'à Zacharie, d'hommes et de femmes dont les noms sont écrits en permanence dans le livre de vie. Soyons un peu plus spécifiques. Nous voyons ici qu'Abel est le premier à être mentionné. Vous avez entendu l'histoire et vous avez lu l'histoire d'Abel et de son frère Caïn. C'est intéressant de noter que le nom de Caïn veut dire « prendre, acquérir ». Lorsque Ève a eu son premier enfant, Caïn, elle a dit « J'ai acquis un homme ». Le nom de Caïn veut dire « prendre » ou « acquérir ». C'est ce qu'il a vécu. Et il en est arrivé à un point où il était tellement jaloux de son frère qu'il l'a tué. Allons dans Jude 14, s'il vous plaît. Jude 14, juste avant le livre d'Apocalypse. C'est un livre court. Il n'y a pas de chapitre. Il y a seulement des versets. Alors, nous allons lire le verset 14, Jude 14. Voyez ce qui est dit. « C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Et dans certaines versions, c'est marqué « avec les 10 000 de ses saints ». Alors, nous voyons par là qu'il y a au moins 10 000 noms d'inscrits dans le livre de vie au moment où Jude a écrit. Et plus que ça, combien de milliers d'inscriptions il y a? Il y a peut-être plusieurs dizaines de milliers de noms. Il semble que ce soit ainsi. Nous avons vu qu'il y a certains noms de mentionnés. Nous avons vu Abel Enoch est mentionné comme faisant partie de cette liste. Alors, continuons ici et allons à Genèse chapitre 22, s'il vous plaît. Genèse chapitre 22. Ici, il est question d'Abraham. Il s'appelait Abraham au début, son nom a été changé en Abraham. Genèse 22 et le verset 10, voyez ce qui est dit ici. « Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. » Vous vous rappelez l'histoire? Une histoire incroyable, très frappante. « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla le prendre et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alors, nous pouvons voir ici qu'Abraham était un homme juste et il a été testé, éprouvé par Dieu. Dieu voulait savoir si Abraham passerait de telles épreuves. Écoutez, Abraham savait comment Dieu haïssait les sacrifices humains qui étaient pratiqués à l'époque. Et Abraham s'est sûrement dit, Dieu ne peut pas exiger ça de moi. Mais pourtant, Dieu lui a dit, va et sacrifie ton fils. Nous savons que c'est une représentation du Christ, notre Sauveur, parce que le Père, notre Père céleste, a donné son Fils pour nous, pour payer l'amende de nos péchés. Alors, il a été demandé à Abraham de faire la même chose, d'offrir son Fils. Lorsqu'on regarde dans la Bible, Abraham a dû faire un voyage de 3 jours pour se rendre au mont Morija, où il devait offrir son Fils. Et vous vous imaginez un peu les pensées qui ont pu traverser l'esprit d'Abraham au cours de cette longue randonnée de 3 jours. Peut-être qu'il s'est dit, comment ça se fait que Dieu demande un tel sacrifice? Je ne comprends pas. Peut-être qu'il arrivera quelque chose qui va changer les choses. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Pourtant, non, Dieu était très clair et je dois le faire. Peut-être qu'Abraham a eu de la difficulté à dormir, mais ça, c'est moi qui extrapole, bien sûr, qui suppose ces choses-là. Mais ce que nous voyons, c'est que Dieu a testé Abraham parce qu'il avait un poste important en vue pour Abraham dans le royaume. Allons à Galates, le chapitre 3, s'il vous plaît. Galates, chapitre 3 et le verset 6. Galates 3 et le verset 6. Comme titre de ce chapitre ici, dans ma Bible, c'est marqué « Le juste vivra par la foi ». C'est moi qui ai inscrit ça. Et c'était le cas d'Abraham, qui est décrit comme le père des croyants, dans Galates 3 et le verset 6. Voyez ce qui est dit. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, disant, « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Alors, Abraham n'a pas seulement été l'ancêtre des tribus d'Israël, mais Dieu avait un plan beaucoup plus vaste, un plan comprenant toute l'humanité. À l'Église de Londres, nous avons plusieurs personnes qui viennent des Caraïbes, par exemple, et nous avons de nombreux individus qui viennent de plusieurs parties de l'Afrique, et ils sont venus à l'Église. Dieu les a appelés. Dieu a fait en sorte qu'ils puissent venir en Angleterre parce que les lois sur l'immigration sont assez ouvertes. Et au cours des dernières années, ces gens-là sont venus, ces familles-là sont venues. Dieu avait prévu ça pour que ces gens-là puissent être en Angleterre et puissent entendre le message de l'Évangile et puissent être appelés à l'Église de Dieu et qu'ils puissent devenir fils et filles spirituels d'Abraham. Ils sont fidèles. Ils mettent leur confiance en Dieu. C'est ce que Paul dit ici. Alors, lorsque nous parlons d'Abraham, il ne faut pas nous limiter à voir Abraham être en charge seulement d'Isaac, de Jacob et des 12 tribus, mais nous devons considérer que la foi d'Abraham a été reconnue par Dieu comme un rayonnement de sa destinée Et ça s'étend à l'ensemble de l'humanité. Et lorsque Jésus-Christ va revenir, Abraham sera là. Et Jésus-Christ va lui donner des directives précises. Jésus va dire à Abraham, « Abraham, je veux que tu ailles, par exemple, aux Philippines. Je veux que tu visites les gens là-bas. Je veux que tu les enseignes et que tu leur parles de la foi. Et j'aimerais que par après, tu puisses continuer ton voyage à Taïwan et ensuite au Japon et possiblement en Corée. Les pays auront peut-être des noms nouveaux à ce moment-là, des noms différents de ceux qu'ils ont maintenant. Mais les gens vont entendre leur père dans la foi, Abraham, vont l'entendre prêcher. Allons à Luc, chapitre 13, et voyons pourquoi nous pouvons dire ça. Luc, chapitre 13 et le verset 28. C'est vraiment enthousiasmant lorsqu'on voit ça. À la fin des tabernacles, lorsque je suis venu à l'Église de Dieu au début, j'ai réalisé que le Christ allait revenir sur la terre et qu'il allait se servir d'hommes et de femmes fidèles, qui sont fidèles actuellement à cette époque, qu'il allait se servir de ces gens-là, qui allaient persévérer jusqu'à la fin, pour servir dans le monde à venir. Et là, j'ai réalisé que c'était vrai, que c'était réel. Ces choses-là vont se produire. Jésus-Christ va établir son gouvernement sur la terre. Quoi que disent, fassent ou pensent tous les êtres humains ou quelque être humain que ce soit, non seulement le Christ va établir son gouvernement sur la terre, mais il a des postes, des positions et des fonctions déjà de préparer pour ceux qui ont été fidèles dans le passé et ceux qui sont fidèles maintenant. Voyez Luc chapitre 13 et le verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Christ qui parle, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il ne s'adressait pas à nous. Là, il parlait aux scribes et aux pharisiens. Avez-vous vu? Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes seront dans le royaume de Dieu. Pas simplement quelques-uns. Et pas seulement les grands prophètes, mais les prophètes mineurs, et sans doute des prophètes dont nous n'avons jamais entendu parler non plus, mais qui ont travaillé dans l'œuvre au cours de l'histoire. Des hommes et des femmes qui ont cru Dieu, qui ont marché dans ses voies, comme on voit dans Hébreux 11. Des serviteurs qui parfois ont connu des épreuves, qui ont été persécutés par les autorités de l'époque. Et les serviteurs de Dieu ont continué à faire le travail qu'il fallait faire. Il y a un prophète du nom de Jonas qui a été prophétisé aux Assyriens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont repentis. Que dire de la reine de Saba? Elle a entendu parler de la grandeur et de la sagesse de Salomon. Et il est écrit qu'elle va être ressuscitée au moment du jugement du grand trône blanc, comme on en entendra parler lors du dernier jour de la fête des tabernacles. Alors, il y a plusieurs hommes et femmes qui seront utilisés par le Christ, ceux qui vont faire partie de la première résurrection. Allons un peu plus loin maintenant, le verset 29. « Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Vous savez, Jésus-Christ a prophétisé aussi qu'au temps de la fin, il viendra un moment où il nous sera dit de partir parce que les autorités religieuses et civiles vont vouloir nous éliminer, nous tuer. Alors, il nous faut comprendre que nous ne faisons pas partie de cette société, de ce monde. Écoutez, le fait que vous êtes en train d'observer la fête des tabernacles, c'est un témoignage du fait que vous croyez en Dieu, que vous croyez Dieu et que vous croyez que son royaume vient bientôt et que vous voulez jouer un rôle dans ce royaume bientôt établi sur la terre. Ce sera une occasion extraordinaire, une occasion merveilleuse. Et ce sera formidable. On a vu que Abraham, Isaac, Jacob auront des postes importants, mais les autres, et vous et moi, si nous sommes fidèles, nous aurons l'occasion d'avoir des postes merveilleux et ce sera enthousiasmant. Continuons maintenant. Allons plus loin. Dans le royaume de Dieu, l'Église et l'État seront harmonisés. Ça sera associé dans le royaume. Actuellement, dans beaucoup de gouvernements, l'Église et l'État sont séparés. Mais dans le gouvernement de Dieu, nous serons rois et prêtres ou sacrificateurs. Nous aurons une partie administrative dans nos fonctions et nous aurons une partie plus religieuse, si vous voulez, comprenant l'enseignement des lois de Dieu, l'adoration de Dieu. Nous allons prendre les commandements de Dieu et nous allons les appliquer dans l'administration même civile. Nous allons nous assurer qu'il n'y aura pas cette séparation entre l'Église et l'État comme on voit maintenant. Allons dans Matthieu 16. Matthieu 16. Je vous ai donné des passages du Nouveau Testament qui concernent des personnages de l'Ancien Testament, mais allons à Matthieu 16 et le verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Voyez-vous, plusieurs chrétiens aujourd'hui disent « on n'est pas sauvé par les œuvres ». Bien sûr, c'est vrai. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Mais vous savez une chose, nous serons récompensés, par contre, selon nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la vie du Christ qui vit en nous. Nous sommes à ce moment-là sous la grâce, nous sommes graciés. L'Église de Dieu n'enseigne pas le salut par les œuvres. Si quelqu'un vient vous dire « l'Église du Dieu vivant enseigne le salut par les œuvres », dites-leur clairement. Ce n'est absolument pas le cas. Nous enseignons que nous sommes sauvés par la vie du Christ, que nous sommes justifiés par son sang, et ce faisant, nous sommes sous la grâce. Par contre, nous allons être récompensés par nos œuvres. Regardez le verset 28 maintenant. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » De quoi parlait-il ici? Il faut aller au chapitre suivant pour avoir la réponse. Matthieu 17, verset 1, qui est la continuation de ce que nous venons de lire. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et ce n'est pas impossible que ce soit dans le contexte de la fête des tabernacles. Ce n'est pas impossible. Continuons. Verset 5. « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Vous savez, c'est intéressant de noter que Moïse et Élie sont mentionnés, parce que Moïse était un administrateur civil. Il a été élevé dans la famille de Pharaon. Il a grandi dans le palais, et il a appris beaucoup de choses, et il a appris, entre autres, comment administrer. L'historien Flavius Joseph en parle et dit que Moïse était sans doute un général qui a mené la campagne d'Éthiopie et qui a réussi. Et comme partie du butin, si vous voulez, on lui a donné la fille du roi d'Éthiopie, dont il est question lorsque Aaron et Marie se sont élevés contre Moïse. À l'âge de 40 ans, Moïse a fui l'Égypte et s'est en allé en exil pendant 40 ans. Il s'est occupé des brebis de Jéthro. Mais il était un administrateur civil. Au cours des derniers 40 ans de sa vie, Dieu l'a utilisé d'une autre façon. Non seulement pour mener les enfants d'Israël hors d'Égypte, mais pour enseigner et administrer les lois de Dieu. On peut voir dans le cas de Moïse qu'il y a comme deux parties dans sa vie. Une partie où il a appris l'administration et une partie où il a appris davantage les lois de Dieu. Et il a travaillé aux deux niveaux. Élie, dans son cas particulier, a été impliqué dans l'avertissement qui devait être donné aux enfants d'Israël. À son époque, les enfants d'Israël étaient plongés dans l'idolâtrie et dans toutes sortes de transgressions incroyables. C'était à l'époque d'Achab et Jézabel. Alors, Élie a eu la mission d'avertir Israël de ce qui s'en venait. Donc, il a eu un poste important et il aura un poste important dans le monde à venir, de même que Moïse, et chacun aura son poste. Allons plus loin maintenant. Exode, chapitre 32, s'il vous plaît. Exode, chapitre 32. Moïse était un administrateur, comme on a vu. Voyons un peu d'autres choses par rapport à Moïse. Exode, chapitre 32, et nous allons commencer à lire au verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, et lui ont offert des sacrifices. Et ils lui ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Wow! Imaginez, Moïse s'est vu offrir la possibilité de devenir le chef d'une grande nation. Je suis un descendant d'Abraham, donc Dieu peut accomplir sa promesse à travers moi et me donner une grande famille qui va accomplir cette promesse-là. Non, regardez comment il a réagi, verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère. » Telle a été sa prière. Et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi, a dit Moïse, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Vous savez ce que la Bible dit de Moïse? Que c'était un homme humble. Ça ne veut pas dire faible. Ça veut dire enseignable, comme M. Armstrong avait l'habitude de dire. Mais chose plus importante encore, une personne humble est tournée vers Dieu et compte sur Dieu pour accomplir ses promesses. Vous voyez ici que Moïse ne s'est pas laissé aller dans un élan de vanité pour lui-même, mais il a rappelé à Dieu les promesses que Dieu avait faites et que ça allait être à travers Abraham, Isaac et Jacob que la descendance allait venir, que les bénédictions allaient venir. Allez au chapitre suivant, Exode 33 et le verset 11. Exode 33 et le verset 11. C'est un exemple merveilleux pour chacun de nous qui nous montre que nous sommes rien. Vous savez, il va vous arriver des occasions où vous allez être tenté, mais ce sera des tests. Où vous allez être porté à penser que vous êtes quelqu'un, que vous êtes quelqu'un d'important. Et Dieu va permettre à ces situations-là d'arriver. Et ça va vous mettre au test. Et Dieu veut voir si vous êtes fidèle et si vous restez humble et si vous êtes disposé à continuer à lui obéir dans l'humilité. 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. La relation de Moïse avec Dieu était vraiment directe, très proche. C'était comme deux amis qui se parlent face à face. Prenez ce concept et appliquez-le à vous-même. Un jour, vous allez parler à Jésus-Christ face à face. Pensez à votre rôle dans le royaume. Il est fort possible que lorsque vous allez administrer une ville ou deux villes ou une région, que le Christ aille vous rencontrer, vous personnellement. Il se dirige vers vous et il s'adresse à vous personnellement. Il ne parle pas aux autres. Il s'adresse à vous. Et il demande comment ça va les choses ici, dans ta ville. Vous allez peut-être répondre, ça va bien. On a un projet d'hydroélectricité qui va très, très bien. Et avant longtemps, on sera capable d'alimenter en énergie environ 30 000 propriétés dans cette région. Bon, c'est bien. C'est bien. Mais comment ça va en ce qui concerne les gens? Ah, les gens vont bien. Au sabbat dernier, on a eu un sabbat merveilleux. Les gens étaient très enthousiasmés. Et la salle était remplie à pleine capacité et les gens étaient très joyeux. Et nous avons une très bonne équipe ici. La plupart des gens qui sont ici viennent de la tribulation. Ils ont été humiliés, mais ils veulent apprendre la vérité. Bon, c'est bien, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Imaginez Jésus-Christ lui-même vous parlant dans le royaume, allant vous voir dans votre maison et vous parlant directement de cette façon-là, offrant son aide, demandant comment les choses vont. C'est ça le royaume de Dieu et c'est ce qui s'en vient, c'est la réalité. C'est un royaume réel et c'est quelque chose de réel qui va se produire dans notre vie. Parlons d'Élie maintenant. Nous avons parlé de Moïse beaucoup. Parlons d'Élie maintenant. Allons à 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, le chapitre 17. Je vais prendre un petit peu d'eau ici. Un roi, chapitre 17. Et le contexte ici, bien sûr, c'est qu'il y avait une grande sécheresse dans le pays, il y avait famine. Élie avait prié Dieu pour qu'il n'y ait pas de pluie et la pluie avait cessé. Et on va voir au verset 17. Élie, à la commande de Dieu, était allé voir la veuve de Sarepta, qui avait un jeune garçon. Élie avait demandé, selon l'ordre de Dieu, à la dame de lui préparer à manger. Et c'était le dernier repas qu'elle pouvait préparer parce qu'elle n'avait pas d'autre chose. On voit ici ce qui se passe tout de suite après, au verset 17. Après que la dame a eu donné un gâteau à Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Il était décédé. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant, que l'esprit de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'esprit de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Cet homme avait une foi absolue et il était engagé totalement dans les voies de Dieu et dans la vérité de Dieu. Il y a peu d'hommes dans l'histoire qui ont été animés d'un tel zèle pour la vérité de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu l'ont fait. Il nous faut avoir ce zèle, ce feu pour obéir à Dieu. Lorsque vous arriverez dans le royaume de Dieu pour servir, pour administrer le gouvernement de Dieu, il y aura des moments où il va vous falloir avoir la foi nécessaire. Vous ne serez plus un être humain faible qui se décourage parfois, qui passe différentes épreuves et qui a de la difficulté. Non, vous allez être rempli de foi totalement. Vous savez, au début du monde à venir, tout de suite après la grande détresse, il y aura des gens très malades. Imaginez le nombre de personnes qui auront été affectées par les bombes nucléaires et par la radiation de différentes armes. Ils vont aller vers vous. Vous allez être un sacrificateur de Dieu. Vous allez leur imposer les mains et vous allez voir leur chair redevenir saine. Leur chair qui était tuméfiée, endommagée ou en lambeaux, leur chair redeviendra saine comme une peau tout à fait neuve. Il y a des gens qui vont avoir des graves problèmes respiratoires, des maladies chroniques, et vous serez capable de les guérir de la même façon qu'Élie a fait ici. Allons à 1 Samuel chapitre 18 maintenant, 1 Samuel chapitre 18. Voici un principe important qu'il nous faut comprendre alors que nous nous préparons pour régner dans le monde à venir. 1 Samuel 18, verset 17. Ici, le roi Saül est allé voir David et lui a dit, « Voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée, Merab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saul se disait, « Je ne peux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saul, et voici sa réponse, « Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » David a dit, « Je suis personne, je suis un rien, je ne suis pas une personne spéciale. » Verset 19, « Lorsqu'il arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel. » Verset 20, « Michal, fille de Saul, aima David. » On en informa Saül et la chose lui convint. Est-ce que ce n'est pas un exemple merveilleux? David, l'humble David, il mettait totalement sa confiance en Dieu et non pas dans les hommes ou dans un homme, ni même dans le roi d'Israël. Et David, en cela, est l'opposé exact de l'attitude du roi Saül. Au début, le roi Saül était petit à ses propres yeux, comme dit la Bible, mais après, ça lui a monté à la tête. Dieu ne permettra pas à personne d'entre nous d'entrer dans son royaume si ça risque de nous monter à la tête, si nous risquons d'abuser de l'autorité qu'il pourra nous donner. Il ne permettra pas que nous soyons dans le royaume si nous sommes animés d'une telle attitude. C'est pour ça que nous passons par des tests et des épreuves. Dieu veut voir où notre cœur est. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit d'Abraham? Dieu a dit, « Maintenant, je sais qu'il va obéir à mes lois. » Et de Moïse, il a dit, « C'est mon ami. » Et de David, Dieu a dit, « Voici un homme selon mon cœur. » Alors, nous savons que Abraham, Moïse, Jacob, Élie et maintenant David seront dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec David, il n'y avait pas de compromis comme avec les autres. Il n'y avait pas d'infidélité spirituelle. Dans le royaume de Dieu, cet homme sera utilisé par Dieu pour éduquer spirituellement le monde. Voyons davantage de choses concernant David. Allons dans Jérémie chapitre 30, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 30. Nous lisons la Bible et parfois nous nous disons, c'était des grands hommes, on n'est pas comme ça. Eux autres, ils n'avaient jamais une mauvaise attitude, ils ne se trompaient jamais, comme s'ils étaient parfaits. C'est un peu comme les vieux films des années 50 et des années 60, comme Ben-Hur ou des films religieux de la sorte, où les gens se promenaient avec des beaux habits, calmement, avec les yeux tournés vers le ciel. Et il y avait un orchestre qui jouait de la belle musique en arrière-scène. Comme si tout le monde était des gens parfaits qui regardaient vers les cieux. Non, ce n'était pas comme ça. Absolument pas. C'était comme vous et moi. C'était des gens normaux, avec des problèmes normaux, avec des ambitions normales, avec des désappointements, des déceptions normales et avec toutes sortes de choses et de tests qui leur arrivaient. Il est écrit dans le livre de Jacques qu'Élie était un homme comme nous, donc avec les mêmes passions, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes épreuves, les mêmes défis. Vous savez, parfois les gens essaient de créer une espèce de religiosité autour d'eux dans certaines religions. Écoutez, en réalité, les gens de la Bible étaient des gens tout à fait normaux qui ont passé à travers des épreuves comme nous connaissons. Ils se sont découragés parfois. Parfois, ils ont eu d'autres moments où ils étaient très élus, remplis de foi, et ils se sont tenus debout pour ce qu'ils croyaient. Et nous devons devenir comme ça aussi. Jérémie, chapitre 30, et nous allons lire à partir du verset 7. Jérémie 30 et le verset 7. Voici, « Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, c'est la grande détresse, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et regardez bien, et David, leur roi, que je leur susciterai. » Alors, le Christ sera le roi des rois. Et David sera roi sur Israël. Vous et moi, on se verra donner des fonctions aussi à un niveau que nous pouvons rencontrer et auquel nous pouvons répondre. Certaines personnes disent, je ne veux pas régner dans le monde à venir. Je veux simplement être là. Je veux être un portier. Il ne faut pas penser comme ça. Ne soyez pas inquiets. Dieu ne vous donnera pas davantage que vous pouvez porter. Mais écoutez, pendant ces 1000 ans du millénaire, vous ne ferez pas simplement ouvrir des portes. Dieu veut que vous continuiez à croître, continuiez à apprendre, à réaliser des choses. Dieu est un grand Dieu, un Dieu de grande entreprise. Dieu est un Dieu qui voit grand. Et Dieu veut que nous goûtions ces choses-là. Ne soyez pas timide et ne vous dites pas « Ah, oh, je suis personne, je suis rien. » Non, ne faites pas ça. C'est une fausse humilité. Faites attention à ça. Laissez-moi expliquer ici. Lorsqu'une personne est centrée sur elle-même, il y a deux possibilités qui peuvent lui arriver. Soit que la personne devienne très orgueilleuse, très arrogante, et pousse sa volonté sur les autres, impose sa volonté aux autres, ou la personne va réagir en se manifestant comme étant insignifiant et étant continuellement tournée vers elle-même. Non, aucune de ces deux attitudes sont justes devant Dieu. Lorsque nous apprenons à nous soucier des autres, à penser aux autres, on enlève notre esprit de sur nous-mêmes et on commence à travailler pour servir, aider les autres et aimer les autres. Ça a peu d'importance le poste que nous allons occuper. Et ça n'a pas d'importance si nous sommes importants ou non. Non. Parce que ce qui nous intéresse, et ce sur quoi on est concentré, c'est sur le bien-être des autres. Écoutez, c'est le cas des mamans. Une maman qui a 1, 2, 3, 4 enfants. Les mamans sont complètement engagées à faire réussir leurs enfants. Et les pères aussi font la même chose lorsqu'ils remplissent vraiment leur rôle. Ils fournissent à leurs enfants le leadership nécessaire et ils leur donnent la bonne direction, l'encouragement. C'est ce que Dieu, le Père, fait. Il a des enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu s'occupe de nous de la même façon. Et Dieu veut que nous réussissions. Il veut que nous développions, que nous développions nos talents, que nous développions nos différentes possibilités. Voyez-vous, il ne s'agit pas de nous montrer juste ou sage ou bon à nos propres yeux, mais de nous servir de ce que Dieu nous donne pour servir. Et ça nous prépare à servir dans le monde à venir. Ézéchiel, chapitre 34 maintenant. Un autre passage des Écritures à ce sujet concernant David. Ézéchiel 34, et nous allons lire à partir du verset 22. Donc, Ézéchiel 34, une autre promesse concernant David qui sera ramené à la vie pour régner. Dieu dit, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître. Qui? Mon serviteur David. Hey, est-ce que c'est pas merveilleux? Qu'est-ce que David a fait lorsqu'il était jeune? Il était berger, et il est écrit qu'il sauvait parfois des brebis de la gueule des lions. Alors, David sait ce que c'est que d'avoir soin de brebis. De la même façon que le ministre qui s'occupe de vous dans votre église locale. Il est votre berger. Sous les pasteurs régionaux, sous les évangélistes, sous M. Meredith, qui est en charge de l'église en tant que président évangéliste, et sous le Christ, qui est le chef suprême de l'église. Dans le royaume, David sera sous le Christ en charge. Mon serviteur David les fera paître, il sera leur berger, et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Alors, David sera berger, un prince, il sera un exemple pour les gens. J'ai hâte de voir David et d'entendre un sermon de David. À une fête des tabernacles, par exemple, dans le futur, vous serez peut-être là, et vous allez entendre maintenant, pour le sermon d'aujourd'hui, voici le serviteur de Dieu, prince et berger, le roi David. Et il va se présenter au lutrin à l'avant et il va vous parler de ses expériences en tant que serviteur d'Israël. Il va vous parler de la loi de Dieu, comment Israël s'est développé en observant la loi de Dieu à certaines époques et ainsi de suite. Qui d'autre cela dans le royaume? Allons à Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 27, Matthieu 19, donc, et le verset 27. Nous avons parlé de plusieurs personnes qui seront dans le royaume de Dieu. Abraham, Moïse, David, Noé sera là, bien sûr. Ce sont des gens mentionnés dans le Nouveau Testament, mais j'ai une bonne nouvelle pour nous maintenant, ceux qui sont sous la Nouvelle Alliance maintenant. Matthieu 19 et le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Quelle sera notre récompense? » Autrement dit, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme viendra au renouvellement de toutes choses, il sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça démontre clairement que les 12 tribus d'Israël existent toujours. Il y a des gens qui disent, « Ah, les 10 tribus perdues, on ne sait pas où elles sont disparues dans les sables du désert. » Absolument pas. Elles vont encore exister au temps de la fin. Et le Christ a dit que lorsqu'il va revenir au temps du rétablissement de toutes choses, que les 12 apôtres vont régner sur les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que quelque part sur cette terre, actuellement, en ce moment même, Dieu sait exactement où sont les 12 tribus. Bien sûr, il y a eu des mariages entre les peuples, mais ça, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Il y a eu des mélanges génétiques, mais Dieu va s'occuper de ça. Le fait est que les 12 tribus existent toujours. Dieu a maintenu l'identité de ses enfants, des 12 tribus d'Israël. Et vous savez quoi? Vous allez avoir la possibilité d'enseigner à ces gens-là. Peut-être que vous avez des ancêtres norvégiens, possiblement. Peut-être que Dieu vous désignera pour enseigner les descendants de la tribu de Benjamin, qu'on croit être ancêtres des Norvégiens. Peut-être que vous êtes d'origine anglaise et que vous allez administrer une région du côté de l'Angleterre, ou peut-être que vous êtes issu de Manassé, ou encore que vous êtes hollandais, c'est-à-dire descendant de la tribu de Zabulon. Vous savez, il y a plusieurs personnes au Canada, en Australie, aux États-Unis, qui viennent de d'autres régions du monde, qui viennent de d'autres tribus d'Israël, et qui viennent de d'autres pays également. Je sais que l'église de Melbourne, par exemple, se compose de différentes nationalités. Et ces gens-là sont à l'entraînement actuellement et ils vont retourner vers leur nation propre pour les enseigner après le retour de Christ. C'est vraiment fascinant. C'est formidable, vous savez. Alors, pensons un instant à ce livre, qui est qui? Parce que c'est dans le livre de vie que vos noms sont présentement inscrits. Notez qu'il y a des gens dont le nom n'apparaît pas dans la Bible, mais qui sont les serviteurs de Dieu et dont le nom se trouve dans le livre de vie, en préparation pour le leadership dans le merveilleux monde à venir. Et c'est merveilleux, c'est tellement encourageant pour nous. Laissez-moi préciser en quoi consiste cette préparation à régner. Lorsque vous persévérez à vivre selon les volontés et la volonté de Dieu, vous vous préparez automatiquement à ce que Dieu a en tête pour vous. Votre vie à ce moment-là est entre les mains de Dieu. Et ce qui peut parfois vous sembler une coïncidence ou un hasard ne l'est probablement pas. Pensez-y. Dieu vous fournit différentes occasions. Peut-être que vous êtes appelé à changer d'endroit pour votre travail. Peut-être à ce moment-là, ça va vous amener à changer d'église locale. Et si vous saisissez cette occasion, peut-être que vous aurez à ce moment-là de nouvelles occasions d'apprendre des choses différentes. Dieu planifie actuellement une œuvre entière avec différents aspects où chacun aura un rôle à jouer pour des dizaines et des dizaines de milliers de ses serviteurs. Alors, quelle sera votre fonction spécifique? Dites-vous une chose, c'est qu'à travers tout ce que vous vivez, Dieu est en train de vous préparer à ses fonctions, d'une façon ou de l'autre. Pensez au temps depuis que vous êtes dans l'Église, et peut-être même auparavant, et Dieu vous a donné des occasions d'apprendre certaines choses à travers votre vie, peut-être au collège, à l'université. Vous avez choisi un certain sentier, une certaine direction de profession, et ça vous a amené à une carrière particulière, peut-être. Et vous avez travaillé dans votre domaine d'expertise. Avez-vous perdu votre emploi? Un désastre? Non, c'est une occasion, c'est un défi. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est peut-être l'occasion de changer de carrière. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Est-ce que vous allez dire, « Ah non, je n'ai pas d'avenir. » Ne faites pas ça, non. Dites-vous et parlez-en à Dieu. « Voici une nouvelle occasion pour moi de croire, d'apprendre des choses nouvelles. » Lorsqu'une porte se ferme, une porte s'ouvre. Je crois à cet adage. Dieu travaille dans votre vie pour vous entraîner à régner dans le monde à venir. Et même en permettant que vous passiez certaines épreuves, soit des maladies, soit certains désastres. Et ça vous aide à développer la patience, la bonté, la sympathie, l'empathie que vous n'aviez peut-être pas auparavant. Et toutes ces choses, Dieu les réalise dans votre vie à travers ce qu'il vous donne de vivre. Il vous prépare à votre rôle dans le monde à venir. Il ne s'occupe pas des moindres détails comme le fait que je mette mes lunettes ou que je les enlève. Non. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce que Dieu fait pour nous, c'est de nous entraîner de façon spécifique pour la position qui nous attend dans son royaume. Allons au livre de Malachie, le chapitre 3, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, le chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 17. Malachie, chapitre 3, verset 17. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ceux qu'il va mettre dans son royaume. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, et c'est écrit dans certaines versions, le jour où je ferai d'eux mes joyaux, au lieu de « ils m'appartiendront au jour que je prépare ». Et ça décrit bien ce que Dieu a en tête. Vous serez peut-être un saphir, vous serez peut-être un rubis. Quoi qu'il en soit, Dieu nous considère comme étant ses joyaux. Et j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors, Dieu nous prépare individuellement à être des joyaux pour lui. Et il prépare une couronne pour chacun de nous aussi. Cette couronne aura des joyaux spéciaux qui vont symboliser votre caractère, votre rôle, votre fonction et votre poste dans le royaume de Dieu. Vous êtes bon pour écrire des choses? Allez voir votre ministre et demandez-lui si vous pouvez écrire des cartes de souhait et d'encouragement à ceux qui sont malades ou à ceux qui sont éloignés ou à des églises qui passent par certaines difficultés. Vous êtes bon pour écouter, pour prêter oreille? Écoutez les gens, prêtez oreille, soyez empathique. Dieu a un programme d'entraînement merveilleux qu'il met en application pour chacun de nous actuellement. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à ce qui s'en vient? Alors, assurons-nous que nous utilisons cette occasion à la fête des tabernacles pour mettre en pratique les dons du Saint-Esprit que nous allons utiliser dans le royaume de Dieu. Lorsque vous arrivez à l'Assemblée pour les réunions, lorsque vous allez prendre votre fauteuil, pensez aux gens qui auraient peut-être besoin du fauteuil que vous occupez. Là où vous vous rencontrez, il y aura peut-être des sièges réservés pour ceux de la chorale, pour les familles ou pour ceux qui sont handicapés. Bon, mais écoutez, respectez ces endroits réservés, ces sièges réservés. Et si vous n'avez pas le siège que vous aimeriez absolument avoir, comprenez bien que tout ne fonctionne pas toujours exactement comme nous le voudrions. Voyez l'essentiel, soyez reconnaissant d'être là. Soyez reconnaissant du fait que le ministre a préparé un sermon pour vous servir à cette fête des tabernacles. Et sachez que Dieu l'a préparé spécifiquement pour vous. Lorsque le ministre a préparé le sermon, il ne savait pas vos besoins, mais Dieu le savait, lui. Et probablement, Dieu a mis dans l'esprit de ce ministre-là de présenter des aspects qui répondent à vos besoins en ce moment. Vous avez prié ce matin avant de venir à l'Assemblée que Dieu inspire le message, et ça a été le cas. Faites-le et vous allez le voir arriver. J'aime la fête des tabernacles, beaucoup. Et ça nous apporte beaucoup à tous, à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants. Cette année, en ce qui me concerne, je vais observer la fête avec mon épouse et mes enfants en Australie, avec les membres de notre famille. Ça fait 9 ans que nous n'avons pas célébré la fête ensemble là-bas. Alors, ça va être bon, ça va être spécial. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous avez planifié cette fête? Est-ce que vous vous êtes bien préparé? Je suis sûr que vous l'avez fait. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter une très heureuse fête des tabernacles. Utilisez ce temps pour vraiment, vraiment vous préparer au rôle qui vous attend dans le royaume de Dieu, alors qu'il vous sera donné une position merveilleuse de servir et de donner aux autres. Assurez-vous que vous utilisez ce temps maintenant pour vous préparer à servir et à donner.